Donc dernièrement, nous avons parlé d'un certain sujet, à savoir de la zrizout. C'est quoi la zrizout? Le zèle qu'on doit mettre lorsqu'on fait une mitzvah. Est-ce que vous savez que les mitzvot, Bezrat Hashem, on doit les faire avec zèle, avec empressement? D'où est-ce qu'on apprend ça? Vous savez d'où on apprend ça? La Gemara dans Sota, elle apprend ça de Avraham. Là-bas, il y a marqué que lorsque Avraham il est parti sacrifier son fils, il est parti le faire avec zrizout. Marqué Vaishkam, Avraham Baboker, il est parti avec Zrizout. Donc de là, la Gemara nous apprend qu'une mitzvah, on doit la faire avec empressement. Maintenant, sur ce sujet, en réalité, il y a des questions qui sont très intéressantes. Est-ce que c'est toutes les mitzvot qu'on doit accomplir avec empressement, avec zèle? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Apparemment, oui, il n'y aurait pas, on ne voit pas dans quel cas on pourrait ne pas accomplir la mitzvah avec empressement. Il y a une mitzvah que Bémet, elle est stapek, comme on dit, l'estapek a douté, cette mitzvah-là, on doit la faire avec empressement. C'est laquelle? C'est mitzvah qu'on appelle mitzvah Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem?
Sanctification
du nom divin. Mais c'est quoi vraiment la sanctification du nom divin? C'est pas seulement de bien se comporter dans la rue ou de bien se comporter en communauté. La vraie signification du Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est de mourir mais Kiddush Hashem. Si, chas v'shalom, quelqu'un nous menace de nous tuer, si on ne transgresse pas, bon, il y a en réalité beaucoup d'alachot, juste pour le cas classique, on nous menace de nous tuer, si on ne transgresse pas, ou bien le meurtre, tue cette personne ou bien je te tue, ou bien d'avoir des relations interdites, ou bien, chas v'shalom, de faire l'idolâtrie, de faire la vodazara, ou de renier la foi. D'accord? Dans ces cas-là, il y a aussi d'autres cas, mais on ne rentre pas dans les détails. Alors on a une mitzvah de refuser et d'accepter d'être tué, de mourir, mais qui nous chachem. Oui. Maintenant, quel serait le cas? Si, chas v'shalom, alors on nous menacerait de nous tuer dans un cas pareil. Est-ce qu'on devrait donc aller mourir, aller se faire tuer avec zèle? Alors c'est quoi le safek? Il y a une mitzvah de vivre dans la Torah. Vous savez qu'on dit que pikuach nefesh, le danger de mort repousse toute la Torah. D'accord? S'il y a un danger de mort Shabbat, alors on repousse le Shabbat plutôt que de mourir. D'où on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a marqué dans la Torah avec Chaïbaem. Et tu vivras en elle. C'est quoi tu vivras? On a mitzvah vivant la Torah. La Torah nous a été donnée pour qu'on vive et pas pour qu'on meure. Cependant, il y a des fois où, comme on a expliqué, la Torah nous demande de mourir. Donc on voit d'un côté qu'on a une mitzvah de vivre, et de vivre le plus longtemps possible, et de sauver la vie des gens pour vivre, on doit vivre. D'un autre côté, la Torah, elle nous dit que, chas v'shalom, si on doit, donc mourir avec Hachem, on doit s'empresser on doit accepter de se laisser tuer. Donc dans un tel cas, doit-on s'empresser à aller mourir ou pas? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Oui? Non?
Il y a du monde qui regarde ou pas?
Il y a du monde qui regarde, que ça change?
Moi, s'il n'y a personne, il vient avec un pistolet.
Non.
De 11 ans, il vient avec un pistolet, il dit...
Sans rentrer dans tous les détails de la halakha, dans le sens qu'il y a parfois,
si c'est pour un petit rebeu,
parfois la halakha ne t'obligera pas à mourir Bekidush Hashem. Mais parfois oui. Donc la question elle est, c'est dans le cas où la Torah m'ordonne dans un tel cas de mourir Bekidush Hashem, est-ce que je dois le faire Bezrizout? Bon, en réalité, la réponse que je vais vous donner, elle va un peu vous frustrer, parce que le Rav qui va répondre à la question ne va pas vraiment donner de raison à cela. Mais comme c'est un grand personnage, à savoir le Gaon de Vilna, alors on va accepter sa réponse. Mais non, pour illustrer la réponse, on va ramener le cas dans quel contexte la réponse à cette question a été répondue. Alors tout le monde connaît donc le Gaon de Vilna, tout le monde connaît la ville de Vilna. Vilna, donc c'était une ville en Lituanie, Pologne, où là-bas, un des plus grands rabbins de tous les temps a grandi, à savoir le Gaon de Vilna, Rabbi Eliaoum Vilna. Maintenant, à Vilna, en réalité, il n'y avait pas que le Gaon de Vilna, il y a eu aussi une autre très grande personnalité, c'est celui qu'on va appeler le Baal Shem Tov, non, je ne crois pas qu'il était de Vilna.
Vilna.
Contemporain, non, je te parle à Vilna. À Vilna, il y a eu un grand personnage, non, Rabbi Chaim Volozhin aussi, et qui, c'est aujourd'hui Saïloula, vous savez, messieurs, aujourd'hui Saïloula de Rabbi Chaim de Volozhin. Non, Rabbi Akiva Eger, non, il n'était pas à Vilna. C'était Rabbi Avraham ben Avraham, le Guertzedek de Vilna, le converti de Vilna. Alors en réalité, lui, son histoire, elle est extraordinaire. Et donc c'est cette histoire-là que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, le Ger Tzedek, donc de Vina Rabbi Avraham ben Avraham, il était le fils d'un homme qu'on appelait le Graf Potocki. Le Graf Potocki, c'était un homme extrêmement riche en Pologne. D'accord, c'était peut-être la plus grande fortune de Pologne. Il avait beaucoup de pouvoir. On raconte qu'il possédait 999 domaines. 999 domaines, on raconte qu'il n'a jamais voulu en acheter encore un autre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens disent, ouais, il en a 1000. 1000, c'est court à dire. Il voulait qu'on dise sur lui qu'il en avait 999. D'accord, qu'on étale sa richesse. D'accord, c'était un homme extrêmement connu, donc on ne peut pas croire que c'était un monsieur qui est extrêmement connu, à tel point qu'en Pologne, il y avait une expression, quand quelqu'un il voulait dire qu'il n'était pas riche, qu'il n'avait pas les moyens de dire quelque chose, il dit, moi, tu crois que je suis le Graf Potocki, moi? Est-ce que je suis riche comme le Graf Potocki? Donc c'est un monsieur d'une grande richesse. Maintenant, le Graf Potocki, il avait un fils qui s'appelait Valentin. Valentin. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Graf Potocki? Il a envoyé son fils. Donc eux, c'était une famille chrétienne catholique très très engagée. Et il a envoyé son fils donc au séminaire de l'église afin d'apprendre pour devenir prêtre, curé. Et donc il est parti avec son ami qui s'appelait Zaramba. Zaramba, comme ça dans le Sramdé. Et donc ensemble, ils sont partis. Là-bas, donc c'était des élèves qui étaient assez doués, des gens qui étaient assez intelligents. Et donc l'évêque, il les envoyait en France pour faire un Ishtalmout, je ne sais pas comment dire, progresser dans le sujet. Seulement, quand ils sont arrivés là-bas en France, un jour ils sont sortis tous les deux, ils sont partis se promener. Et ils ont commencé à se poser des questions sur la véracité donc de cette religion. Et ils ont commencé à avoir des doutes. Et au fil de la discussion, ils ont, je ne sais pas comment exactement ils sont entrés dans une synagogue, je ne sais pas exactement comment c'est passé, où là-bas ils ont rencontré un rav juif. Et ils ont commencé à lui poser des questions à ce rav juif par rapport, en train de commencer à comparer la religion juive, la religion chrétienne. Et le rav, apparemment, il avait un certain talent, et il a réussi à prouver que Torah Tachem, que la Torah, elle est divine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Zaramba et Valentin, tous les deux, ils vont aller tous les soirs aller étudier donc la Torah en cachette. Jusqu'au jour où, ça y est, ils étaient les deux enflammés et ils vont décider de se convertir. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre petit Valentin? Il va partir à Amsterdam. Il va fuir donc la France. Il va partir à Amsterdam. Là-bas, à Amsterdam, il va se convertir. Plus tard, Zaramba, après toute l'histoire que je vais vous raconter, des années plus tard, il va partir, lui, en Eretz Israël, il va se convertir, il va se marier avec une convertie, et là-bas, ils vont devenir, elle, lui et sa femme, des grands balais chesed, des gens qui vont faire beaucoup de bien entre eux, aux autres. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va décider de partir à Amsterdam, et il va commencer donc un processus de conversion. On raconte que Valentin, quand il était encore non-juif, lorsqu'arrivait Shabbat, alors là, il était pris d'un enthousiasme, d'une excitation hors du commun. Tous les Shabbats, il était en train de bouillir, il était excité, il était bien, mais il était... Et il marchait dans sa salle, comme ça, dans sa chambre, et il disait, mais c'est quoi le Shabbat? Pourquoi est-ce que quand arrive le Shabbat, alors je suis comme ça? Le Rabbi Michael Feinstein, il raconte que le dernier Shabbat, donc que ce Valentin a vécu en tant que non-juif, il avait déjà atteint un niveau extraordinaire, il avait déjà reçu presque une âme juive. Bon, en tout cas, au Hachem, il s'est converti. Et donc, il a commencé à Amsterdam à étudier donc la Torah, chasse et poskim, nuit et jour, il étudiait. Maintenant, bien entendu, ses parents, qui n'ont pas de nouvelles, Graf Potocki, monsieur puissant, fils unique, il n'est pas là, il ne revient pas, il s'inquiète, où est-ce qu'il est le petit-fils chéri? Alors, qu'est-ce qu'il se décide? Il décide d'envoyer des détectives dans tous les pays afin de rechercher leur fils, où est-ce que leur fils a disparu? Maintenant, lui, de son côté, il savait très bien que ses parents allaient le rechercher. Il dit, je ne peux pas rester à Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville trop centrale et tout se sait. Bon, c'est pas bon, pas rester ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il est parti où? Parti à Vilna. Alors qu'il est parti à Vilna, là-bas, bon, il s'est enfermé dans un petit Beit Hamidrash où il a commencé à étudier. Et là-bas, qui l'a rencontré? La grande Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, à l'époque, il n'avait que 29 ans. Et déjà, il était considéré comme le grand personnage de la génération. Et donc, il a connu le Gaon de Vilna, et on raconte qu'il a eu beaucoup un lien très très intime avec le Gaon. Où le Gaon, mamash, il lui confiait des choses profondes de Torah. Bon, ils avaient vraiment un lien très fort. Le Gaon, il avait vu dans cet homme-là, qui était spécial. C'était pas un converti, c'était un converti que Hachem lui avait donné une neshama extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le Kesher, il était très fort entre les deux. Seulement, le Gaon, il a attrapé un jour, il a dit, écoute, ici à Vilna, c'est une ville où il y a trop d'effervescence dans cette ville-là. Trop de passages, trop de monde qui vient, qui viennent. Bon, c'est pas très bien que tu restes dans notre ville. D'accord? C'est dangereux, il risquerait de t'attraper. Moi, je te conseille de partir dans un petit village où il n'y a personne, personne ne te connaît. Un petit truc, un endroit un peu retiré comme ça. Il a écouté le conseil du Rav et il est parti dans une petite ville qui s'appelait Ilia. Là-bas, ils sont enfermés dans un petit Kreuz. C'est un Kreuz. Kreuz, c'est une petite pièce comme ça où les gens ils venaient étudier. Et donc dans cette pièce-là, ils mangeaient, ils dormaient, ils étudiaient matin, midi et soir. Les gens donc du village venaient dans la bêta-cassette, ils voyaient cet homme-là qui était donc avec une grande barbe, avec des grandes péotes. Quand un juif qui avait une adrate panime, une lueur sur le visage extraordinaire, il voyait et tout le monde l'admirait. Personne ne savait qui c'était, mais il admirait. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait dans la ville un tailleur. Ce tailleur-là, avec qui il travaillait avec des non-juifs, avec toutes sortes de personnes. Là-bas, c'était un tailleur donc apparemment qui était assez réputé. Et donc il fabriquait des habits pour des gens qui venaient de l'extérieur du village. Et la chmoie en français ?
La rumeur
que le fils du Grav Potocki a disparu. Et lui, il a entendu ça. Bon, lui, comme il avait un lien avec l'extérieur, donc il a pu avoir cette rumeur-là. Il a commencé à faire le rapport avec le bonhomme là-bas qui est dans la Pétaknesset. Pourquoi? Parce que ce bonhomme, il est bizarre. Il parle en yiddish, avec un yiddish bizarre, un yiddish avec un accent bizarre. Et d'un autre côté, il parle le polonais parfaitement. Et il n'a pas de famille, il est tout seul comme ça, il est spécial quoi. Apparemment, ça ne doit pas être un de chez nous. Et lui, tout de suite, il a compris la tête au fait qui était cet homme-là. Bon, d'un autre côté, il a pas voulu dénoncer. Qu'est-ce qu'il gagne à dénoncer? Seulement, un jour, son fils, d'accord, son fils, donc le fils de ce tailleur-là, il est rentré dans la bêta Knesset, il a commencé à faire du bruit, du chahut, il a commencé à l'embêter le Gertzedek, Rabbi Avraham. Donc, au début, Rabbi Avraham, il disait rien. Et ce gosse, tous les jours, il venait, il le dérangeait. Apparemment, tel que l'histoire le raconte, il dérangeait vraiment de façon exagérée, de façon vraiment bériche, haute, d'une méchanceté. Jusqu'au jour où lui, il n'en pouvait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapé par l'oreille, il l'a mis dehors. Il a dit, une phrase aussi assez violente, enfin, c'est intéressante, il lui a dit, si un enfant, il peut se comporter de cette façon-là, ça ne m'étonne pas qu'un jour il est sous-tombé et il se convertisse à une autre religion. Et on raconte Bémet que ça qui lui arrive à ce gosse-là. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Il est parti voir son papa, il a commencé à pleurer, le monsieur qui est dans le Betaknesset, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et comme le papa, c'était quelqu'un de très intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le dénoncer. Alors quand on lui a annoncé, donc quand il a entendu qu'il avait été dénoncé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui dans une auberge, à 8 km de la ville, il y avait une auberge, il a fui là-bas. Lorsqu'il est arrivé dans l'auberge, l'aubergiste, il a vu donc un monsieur qui arrive, il y a la police qui recherche des gens, il y a un truc qui ne va pas ici. Et tout de suite, il a compris que l'aubergiste, ici, la personne qui était venue se réfugier, c'est lui, c'était quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Et la police, elle est venue, et là, ils l'ont attrapé, et donc ils l'ont embarqué. Et là, il est embarqué et ils ont commencé à le mettre en... Donc, ils l'ont mis en prison. Donc, on a annoncé à sa famille, monsieur, madame Potocki, on a retrouvé votre fils. Il est là-bas, 8 km du petit village de Hila. Donc, le papa, la maman, ils sont venus. Et ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à supplier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais pourquoi tu nous as fait ça? Et pourquoi? Il a comment expliquer que, bon, tu comprends, j'ai étudié, j'ai trouvé des choses qui me paraissaient plus vraies. Et donc, ça m'était difficile de rester... Et bon, les parents, ils ont essayé de le convaincre de sortir de prison, ils ont essayé de le convaincre, de l'arzorbo, de ça va, arrête tes bêtises, reviens à notre religion, reviens à notre foi. Et le guerre, Rabbi Avraham, il a dit, écoute maman, moi je t'aime beaucoup, Chas v'shalom, j'ai aucune haine contre vous, mes parents, vous êtes des bons parents, je vous aime beaucoup, mais la vérité, elle m'est plus chère que votre amour. Et donc, je peux pas. Il dit, mais ils vont te prendre, ils vont te tuer. Vous savez pourquoi ils vont te tuer? Parce qu'à l'époque, en Pologne, c'était interdit de se convertir au judaïsme. Celui qui se convertissait à cette religion qui était très méprisée à l'époque, alors il était passible de la peine de mort. Et donc, ils lui ont dit, mais ils vont te tuer. Il a dit, c'est pas grave, moi je suis prêt à mourir comme un juif. Si c'est la mitzvah qui se présente à mes mains, dans mes mains maintenant, je suis prêt à l'accomplir. On raconte que les curés aussi sont venus essayer de le convaincre. Et comme ils voyaient qu'il n'y avait rien à faire, ils l'ont torturé, ils l'ont fait souffrir. Enfin, malgré tout, d'accord, lui, il était toujours joyeux, souriant, et aucun problème. Sa mère, afin de le convaincre, elle lui a proposé quelque chose. Elle lui a dit, voilà, t'as qu'à rester, fais semblant de revenir donc à notre foi. Et chez nous, dans notre maison, dans notre palais, on va te construire un petit bêta midrash avec tout ce que tu veux, avec tous les livres que tu veux, avec tous les rabbins que tu veux, et tu feras ta Torah en cachette. Il a dit non, je ne peux pas. La vérité, j'ai pas. Si c'est ma mitzvah, encore une fois, alors je n'ai pas peur de l'accomplir. Si c'est la volonté de mon créateur de que je sois mes Kadesh Hem Shamaim, je le ferai Bessimra. En tout cas, sa mère, elle a vu que son fils, il avait Baruch Hashem la tête dure. Elle a dit, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est d'aller voir le roi en personne et de lui demander une grâce. Donc elle va partir chez le roi. Le roi, comme c'était donc une famille assez puissante, le roi, il va accepter de gracier, donc de le gracier, de lui permettre de rester juif. Seulement, lorsque les dirigeants donc de l'église de l'époque, ils ont entendu que la mère avait réussi à avoir une grâce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accélérer le processus de l'exécution. Et donc, ils vont l'exécuter, comme on va voir maintenant, un jour avant. Donc, la mère, elle va arriver, et son fils, malheureusement, il aurait déjà été tué. Entre-temps, on raconte que lorsqu'il était en prison, il y a les bourreaux qui ont vu que, les bourreaux, ceux qui l'ont torturé, ceux qui allaient aussi le tuer, ils ont vu que cet homme-là, il était spécial. D'accord? Même avec toutes les souffrances, il gardait sa foi, il était fort, ils ont eu très très peur de lui. Ils ont eu très très peur de lui. On dit, cet homme-là, quand il va arriver au monde futur, il va venir et se venger de nous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les bourreaux? Ils sont partis le voir, ils ont supplié, ils se sont suppliés. Écoute, nous, on fait notre travail, nous, on n'a aucune volonté de te faire du mal. Tu comprends? On fait notre travail, alors, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal quand tu seras... Après ce qui t'arrive dans le monde futur, ne nous fais pas du mal. Alors là, le guerre, il les a regardés avec un grand sourire. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Il vous racontait, on a un machal de Chazal. Chazal, il nous raconte, sur un certain passage, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du verset, il raconte qu'un jour, il y a le fils d'un roi qui était en train de jouer, il faisait un château de sable comme ça. Il y a les fils des paysans qui sont venus, ils lui ont cassé son château de sable, ils ont commencé à l'embêter, ils ont commencé à le frapper. Et donc le fils du roi, il était très triste, comme ça, ils lui ont cassé son château de sable. Il est parti voir son père. Il lui a dit, papa, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Son père, il lui a dit, t'en fous, t'inquiète pas, toi, t'es un fils de roi, toi. Toi, demain, tu seras roi, tu crois que ça peut te faire qu'ils t'ont fait ça. Toi, tu aspires à des grandeurs. Non, parce que le fils, pardon, excusez-moi, il avait dit que quand il sera grand, quand il sera roi, alors il allait se venger de ces méchants fils de paysans qui lui ont fait du mal. Alors le roi lui a dit, mais... Quand tu seras un roi, mais tu seras tout ça, ça te dépassera. Qu'est-ce que tu en as à faire des fils de paysans qui t'ont fait du mal? C'est de la rigolade. Bémet, le roi, quand le gosse, il est devenu roi, alors les fils des paysans qui lui avaient fait du mal quand ils étaient jeunes, ils sont venus le voir, lui demander pardon. Il dit, mais quoi demander pardon? Mais quel rapport entre vous et moi? Quel rapport entre ce que vous avez fait quand j'étais petit et mon Mahamad, comment on dit Mahamad en français? Et mon niveau aujourd'hui, mon statut aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut me faire? Et Rabbi Avraham, il a répondu exactement la même chose. Il a dit, quand je serai près d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, après avoir fait cette mitzvah extraordinaire, je serai à des niveaux tellement élevés, est-ce que vous croyez que je vais me soucier de ce que vous m'avez fait? Vous inquiétez pas, vous n'avez vraiment rien à craindre de moi. On raconte aussi que le Hayat, le tailleur lui-même, il est venu demander pardon. Il est venu demander pardon, et le guerre, il a accueilli, il a calmé, il a dit ne pleure pas, ne sois pas triste, t'inquiète pas, je t'en veux pas du tout de ce que tu as fait, et au contraire, je te remercie parce que grâce à toi, je vais accomplir une mitzvah extraordinaire, une mitzvah que tant de rabbinim, tant de gens de mon peuple ont toujours rêvé d'accomplir. Je fais une petite parenthèse, on raconte sur le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, que lui, toute sa vie, il a prié Hachem de mourir comme ça. Il n'est pas mort comme ça, il est mort de façon naturelle. Mais en tout cas, il a prié d'arriver à une telle madriga. Refermons la parenthèse. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a encore un autre truc qu'on raconte, que le Gaon lui-même... Alors il y a deux versions. Est-ce que c'est le Gaon qui est venu le visiter en prison, ou un jour le Gaon l'a rencontré dans une bête à Knesset? En tout cas, un jour le Gaon, il l'a vu en train de pleurer. En train de pleurer, il pleurait. Il a dit, Rabbi Avraham, pourquoi est-ce que tu pleures? Non, c'est sûr que c'était pendant la prison. Il a dit, pourquoi est-ce que tu es triste? Tu dois au contraire être joyeux. Maintenant, Bezrat Hashem, bientôt, là, dans quelques jours, tu vas accomplir une mitzvah extraordinaire. Et une mitzvah, elle doit se faire Bessimcha. Tu dois être heureux, tu vas aller Kadeshem Shamaim, comme Rabbi Akiva, tu vas être choisi comme un. Choisi par Hashem pour être un de ceux qui vont sanctifier son nom. Oui?
On a le droit de prier pour demander des
histoires? Je sais pas. Non, c'est droit, pas le droit, c'est sûr que nous, on ne doit pas le faire. On voit qu'il y a des grandes sadikim qui ont fait ça. Nous, Alva, y compris que tout se passe bien dans notre vie, qu'on... Je pense pas qu'on ait le droit. Notre niveau, la Gemara raconte sur Rabbi Yochanan, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, un jour, il pleurait. Il était... Attends, je ne me rappelle plus l'histoire. Rabbi Yochanan, un jour, oui. Il pleut. Non, il avait des souffrances, d'accord. Il était pris par des fourrés, il était malade. Et Rabbi Lazar, il est venu le visiter. Il lui a dit, est-ce que tu as un plaisir d'avoir des souffrances? D'accord, tu es content de tes souffrances? Il a dit, je veux ni les souffrances, ni le salaire des souffrances. D'accord, même les souffrances, c'est des choses extraordinaires, j'en veux pas. D'accord, laisse-moi de côté. Il y a des mefarchim qui expliquent. Il dit, pourquoi? Parce que la souffrance, c'est la double tranchant. La souffrance, c'est vrai que ça t'aide à t'élever. Mais d'un autre côté, si tu n'arrives pas à bien la vivre... Ça te donne un sentiment et ça te. T'es mal à l'aise dans ton Avodat Hashem. D'accord? Alors si c'est pour arriver à être mal à l'aise ou à mal le vivre, j'en veux pas. J'en veux pas. Je préfère rester avec mon petit salaire et au moins être toujours près d'Hashem, être content. Bon, Rabbi Yochanan, déjà, lui, il n'était pas convaincu qu'il fallait vivre les souffrances. Ah, pour lui. Bon, chacun il... En tout cas, on raconte que le Gaon. Il a vu en train de pleurer, il a dit forcément, et le Rabbi Avraham, il a dit, mais non, je ne pleure pas pour ça, au contraire, je serai content, ça, j'ai aucun problème avec ça. De mourir, mais Kiddush Hashem, c'est une marla extraordinaire. Alors il dit, pourquoi tu es triste? Il dit, parce que je suis triste, parce que j'ai pas de parents, enfin, je ne suis pas venu d'une mère juive, j'ai pas de frère, j'ai pas d'enfant. D'accord? Donc j'ai aucune trace dans ce monde, il n'y a personne qui va, j'ai pas laissé de trace dans ce monde. Alors le Gaon, il lui a ramené le verset, là-bas dans Télim, où il dit, je sais pas si c'est dans Télim, il lui a ramené un verset. Où il y a marqué là-bas, je l'ai écrit ici, Ani Rishon, Vani Acharon, Umi Biladai En Elokim. Et là-bas, le Midrash, il commente le verset, il dit Ani Rishon, Hachem, donc il parle, Ani Rishon, je suis le premier, Chez Enli Av, j'ai pas de père. Vani Acharon, Chez Enli Ach, c'est quoi, je suis le dernier, que je n'ai pas de frère. Vemi Biladai En Elokim, Chez Enli Ben, que moi, je n'ai pas de fils. D'accord? Et un autre Midrash qui dit, par rapport au même verset, que Hachem, en disant ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que, t'inquiète pas, moi je suis le père de ceux qui n'ont pas de père, et je suis le fils de ceux qui n'ont pas de fils, et je suis le frère de ceux qui n'ont pas de frère. Donc qui mieux que toi? Toi, ton père, ton frère et ton fils, c'est qui? C'est Hachem en personne. Donc t'as pas à être triste. Comme ça le Midrash y ramène. Comme ça le Gani lui a dit. En tout cas, on raconte aussi que le Chafetz Chaim, il avait l'habitude de dire que le Gaon Mivilna, il avait envoyé un Talmid voir le guerre et lui dire que s'il voulait, sans aucun problème, il était capable, grâce à des noms saints, des noms de Kabbalah, de le faire fuir de la prison. Et le Rabbi Avraham, il avait refusé. Il a dit, ma pitom, on donne la possibilité de faire une mitzvah aussi extraordinaire, je vais la refuser. Elle va qu'on est. Donc il a refusé.
Mais toutes les mitzvot qu'il aurait fait après, c'est...
Certainement, cette mitzvah-là, celui qui l'accomplit, c'est directement, c'est sans passer par la prison, tu vas directement à la case départ. Ouais, comme dans Monopoly. Et là-bas, tu touches le pactole. Là-bas, il connaît ni le din, ni le jugement divin, rien du tout. Directement, Olam Haba. Et là-bas, il est assis avec les tzadikim, Rabbi Akiva, et bon, c'est une malade extraordinaire.
Si tu rachètes toute ta vie un jour, il vient à 40 ans, 50 ans.
Bien sûr, si c'est... Si l'homme, il a été rachat toute sa vie, et il a eu le sroud de mourir Bekidush Hashem avec l'intention de mourir Bekidush Hashem, tout ce qu'il a fait s'est effacé. Et... Ça y est, c'est magnifique, mais bon, c'est... Tu veux le faire ? C'est chaud. Bon, on n'a pas la marala, malheureusement. On n'est pas... En tout cas, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, on a ils vont décider donc de l'exécuter. Et ils vont faire toute une procession. Ils vont le sortir donc de la prison. Et ils vont commencer à le balader dans toute la ville. Non, il y avait beaucoup de monde qui était venu assister à l'exécution. Tout le monde sauf les juifs. Les juifs, ils avaient très très peur. Donc tous les juifs de l'époque, de la ville, ils s'étaient enfermés dans leur maison. D'accord ? Comme c'était chaud, là, c'était l'antisémitisme, il était très très chaud dans la ville. Ils avaient peur qu'après cela, il y aurait une effervescence de haine et ça risquerait, Hasbe Shalom, de faire des pogroms. Donc tous les juifs, ils étaient enfermés dans leur maison. C'était Shavuot aussi, c'était le deuxième jour de Shavuot. Donc bon, ils auraient pu descendre dans la rue. Et là-bas, on raconte, donc ça va répondre à notre question, que Rabbi Abraham, donc lorsqu'on le traînait dans la ville, mamash on le traînait, il marchait doucement, la tête de basse, et il marchait doucement, jusqu'à qu'il arrivait donc dans le quartier juif. Et là, à ce moment-là, on raconte qu'il est passé sous la fenêtre du Gaon de Vilna. Et à un moment, il a entendu la voix du Gaon lui crier, Rabbi Abraham, Bezrizout, Bezrizout, avec zèle, avec empressement. Et donc là, c'est la réponse à notre question. Rabbi Abraham, lui, il avait un doute. Il dit, maintenant, je vais accomplir une mitzvah, d'accord ? Maintenant, cette mitzvah de Kiddush Hashem, est-ce que cette mitzvah-là, je dois la faire, Bezrizout, avec empressement, ou non ? Et je dois accomplir V'chai Ba'em, tant que je peux vivre, alors je dois vivre. Et donc là, c'était son safek. Jusqu'à qu'il est devenu le Gaon, il a dit, non, cette mitzvah-là, à partir du moment où tu l'as acceptée, d'accord ? Alors tu dois l'accomplir avec zèle. Je fais une petite parenthèse. Les poskim, ils disent, malgré tout, le Ishwat Yaakov, il explique, il dit, si en ne pas se pressant, c'est-à-dire en allant doucement, on a peut-être la possibilité de s'enfuir ou de ne pas être tué, il n'y a aucun besoin, aucun devoir d'aller en s'en pressant. Au contraire, on doit éviter, retarder au maximum la peine. Alors Kaniri a peut-être l'obligation de se sauver. Mais ici, comme il avait décidé donc de mourir Bekidush Hashem, il ne voulait pas fuir, au contraire, il voulait accepter. Comme là-bas, le Beth Yosef, il ramène que celui qui a envie de l'Imsor Nafsho, alors Moutarlo, il a le droit, donc il a le droit de... Alors dans ces cas-là, il faut la faire Bezrizout dans tous les points de la Halakha comme il faut. Et donc là, alors ce moment-là, dès qu'il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à chanter, il a commencé à danser, il a commencé à courir vers le bûcher. Alors bien sûr, les goyim, ils l'ont vu, quoi ce fou-là, on le brûlait, il est en train de chanter, en train de danser. Alors en tout cas, il était comme ça, bête la voûte, il était content. Et là, on va le monter donc sur le bûcher. Et on raconte qu'il n'y avait aucun juif qui était venu assister, ils avaient tous peur. Il y a un seul juif qui est venu, en plus son nom, c'est celui qui a écrit un chassid. C'est le Baal Issod Veshoresh à Avoda. Lui, il n'a pas eu peur, il a été là-bas devant. On raconte quand le Rav, donc quand ils ont allumé le bûcher, et donc il était en train de... Le feu a commencé à le prendre. Alors là, il a commencé à hurler, il a commencé à faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kiddeshanu Bemizota Vetzivanu, Al Kiddush Hashem. Et là, le Issod Veshoresh Avoda qui était donc dans l'assistance, il a crié Amen. Comme ça, Bekol Kocho. En tout cas, lorsque les flammes, elles ont commencé à le prendre, il a commencé à brûler, d'accord, tous les gens qui assistaient, ils étaient complètement tous sciés de voir avec quelle joie, avec quelle... Et crier, flamme, flamme, brûlez mon corps, brûlez ce corps qui a mangé des choses pas cachères, brûlez ces mains qui ont fait des avérotes, d'accord, et en chantant, en criant de joie, alors ils l'ont brûlé. Et là, c'était vraiment le pélé. Et donc, ils l'ont brûlé. Par rapport, donc lorsqu'il est mort, il y a eu plein de trucs dans le monde, dans la ville. Alors quand on a un petit détail, dans la ville, il y a un incendie qui a éclaté. Un incendie inexplicable qui a éclaté. Et tout le monde a fait le rapport. Ils ont commencé à... Bon, il y a eu un peu de panique dans la ville. Il y a une chose qu'on raconte, c'est que la fumée donc, du bûcher, elle s'est élevée comme ça, et elle s'est collée sur le mur, sur un mur d'un un bâtiment de la ville. Et après, ils ont essayé de nettoyer cette tâche-là, ils ont essayé de la nettoyer, elle ne partait pas. Ils ont nettoyé, elle ne partait pas. Ils ont essayé de faire la peinture, ils l'ont peint. Et pendant des années, cette tâche-là, elle était comme ça, une tache noire sur un mur. À tel point que la municipalité a eu honte. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de détruire le bâtiment pour enlever cette tâche-là. On raconte aussi les poskim, c'est ramené dans la lacha. Bon, je ne veux pas ramener dans quel cas c'est ramené dans la lacha pour pas que les gens apprennent à être méquilles dans ça. On dit qu'à ce moment-là, au nom du Gaon, on dit, je crois que c'est au nom du Gaon qu'on dit ça, que après qu'on l'ait tué, les forces de l'impureté dans le monde, elles se sont écroulées. Elles se sont complètement diminuées. C'est-à-dire que depuis que lui, il est mort, la force de l'impureté, elle est beaucoup, beaucoup plus faible. Il y a un autre truc qui dit que la force de la klipa, vous savez, il y a une klipa, vous savez la klipa, ce que c'est? La klipa, c'est la couche de je sais pas comment expliquer ça, un voile, il y a un certain voile de la chisonyut, des forces du mal aussi qui s'est détruite. C'est à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, je voulais dire, bon, celui qui fait la mitzvah kiddush Hashem, il doit être bessimcha, il doit être dans un zrizout. Mais nous, quand on voit ce spectacle, est-ce qu'on a le droit d'être bessimcha ou on doit au contraire...
Je sais pas, si tu vois que lui il est heureux, pourquoi pas être heureux avec lui? Je sais pas répondre. Je sais pas, qu'est-ce que... J'espère que je n'aurai jamais la joie de voir ça. En tout cas, on raconte, il y a une autre chose aussi qu'on raconte, il y a eu un dibouk. C'est un dibouk, un esprit qui rentre dans le corps d'un Raisen là-bas, dans une ville, là, il y a eu un dibouk. Et ce dibouk lui répétait à voix haute qu'il y a eu un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom divin, où là-bas il y a eu un homme, donc un converti, qui s'est fait brûler. Et ça fait un grand Kiddush Hashem dans le monde, où Hashem lui-même, il est venu accueillir, et tous les tzadikim, Abraham, Isaac, Yaakov, ils sont venus accueillir le tzadik. Donc ça a vraiment un truc qui a fait beaucoup de grabuges dans le ciel. Enfin, pas de grabuges, de...
C'est la plus grande amitié.
Voilà, en tout cas, un dibouk, c'est des fois, à cause de certaines fautes, un homme meurt, et son âme, elle erre dans l'univers comme ça, sans trouver de repos. On ne l'accepte pas, ni au Gehinnom, ni en réincarnation. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un homme qui n'est pas méritant, qui a des fautes dans ses mains, ou qu'il n'y a pas de mezouza dans la maison, et elle vient, elle s'habille dans le... Comment s'appelle ça? Ça s'appelle un esprit exorciste. Un exorciste. Une possession. D'accord. Il y a plein d'histoires avec les Dibukim, avec le Gaon de Vilna aussi, il y a plein d'histoires à l'occasion de racontera. Dernièrement, il y en a eu un il y a quelques années. Bon, c'est un truc, hein, c'était vrai, pas vrai, en tout cas, bon, je sais pas. Mais c'était impressionnant, paraît-il. Moi, j'avais un de mes raves qui était donc à Yeshiva, qui a été là-bas quelques mois avant que ça fasse du bruit dans ce Dibouk qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. On lui a dit, nous, Rav, c'était vrai ou c'était pas vrai? Il a dit, je sais pas, mais j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur, c'était impressionnant. Un des raves qui était avec nous à la Yeshiva. Quel dibouk? Un dibouk qui était dans le corps d'une femme où il disait toutes sortes de choses. C'était le mari qui était rentré dans sa femme et qui voulait se venger de sa femme.
Il y avait la cassette,
Marcel. Ils ont fait une cassette, ils ont fait bon tout un truc. Bon, en tout cas, vrai, pas vrai, je sais pas, mais les gens, ils ont tremblé. Ils n'ont jamais vendu autant de mezouza après. C'est-à-dire qu'ils ont tous posé des questions. Comment est-ce qu'un dibouk qui vient? Il dit, celui qui a une mauvaise mezouza à la maison, il y a des chances qu'il arrive. Les gens, ils ont, comment dire, pillé les magasins de mezouzot.
Beaucoup de marketing.
Alors. On va faire un... En tout cas, on raconte... qu'est-ce qu'on raconte encore? Le Chafetz... Ah, le Chafetz Chaim, il dit un truc très très joli. Le Chafetz Chaim, il dit que... Ouais, comment expliquer les convertis? Comment est-ce qu'on est bien converti? Un converti, c'est quoi? C'est un non-juif qui est devenu juif? Ou est-ce que... Non, c'est un juif qu'on ne savait pas qu'il était juif, il est devenu juif après, il a retrouvé son identité. Comment... D'où est-ce que l'âme d'un converti vient? Le Chafetz Chaim, il dit quelque chose de très joli. Il explique que, vous connaissez le Midrash, que avant Matan Torah, Hachem, avant le don de la Torah, Hachem, il est parti voir toutes les nations. Il a dit ce que voulait la Torah. Et toutes les nations, elles ont refusé la Torah jusqu'à qu'il est venu voir le Ham Israël. Ou là-bas, le Ham Israël, il a accepté. Maintenant, il dit le Chafetz Chaim, qu'en réalité, c'est vrai que la nation entière a refusé. Aval, dans chaque nation, dans chaque peuple, il y avait des Yéridim. Comment on dit Yéridim? Il y avait des particuliers qui ont oui accepté là. Ils ont accepté, ils ont dit oui, non, on veut être juif. Et les âmes des convertis, les âmes donc des convertis, pardon, c'est en hébreu français, les âmes des convertis, ce sont ces âmes-là qui ont accepté. entre parenthèses, faisons une petite parenthèse par rapport au respect qu'on doit avoir envers les convertis. C'est pas pachouti. Malheureusement, aujourd'hui, il y a... Bon, c'est peut-être pas pour rien, à cause des mauvaises conversions qu'on entend, avec tout ce qu'on entend. Avant, malgré tout, si un converti qui est bien converti, il fait très très attention. Parce que vraiment, celui qui fait du mal à un converti, il touche aux prunelles de Dieu d'Hachem. On doit envers ces personnes un très 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 grand respect. Très très grand respect, enfin très très attention. Ouais, bon, fermez la parenthèse.
Quelqu'un qui est en
cours
de conversion,
quelqu'un de conversion, on doit le respecter. Bah, c'est sûr, il n'y a pas de machin. De toute façon, on n'a aucune raison de respecter, pas respecter qui que ce soit. D'accord, on n'a aucune raison. Et bon, il n'y a pas de. En cours de conversion, c'est pas vraiment de différence. C'est qu'après qu'il soit converti, là vraiment, c'est beaucoup plus fort. En tout cas, on raconte au nom du Rav Michael Finstein, je crois que c'était, qui dit, le Gaon, il a dit, au nom du Gaon, on dit que si au moment où on l'avait brûlé, le Guer Tzedek, il y avait 10 personnes qui avaient répondu Amen à sa bracha, d'accord, le Machiar, il serait venu à la Makom. Il serait venu à ce moment-là. D'accord, c'est pas un rabbi pas connu, c'était le Gaon de Vilna qui a dit ça. Donc vraiment, c'était une... En tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps, donc vite, je vais... raconter.
Il n'a pas dit avant.
Il n'a pas dit quoi.
Après, il a réfléchi
à ça. Je sais pas pourquoi il n'a pas dit avant. On ira lui demander. Après 120 ans, il demandera, je sais pas. En tout cas, juste, on finit, il ne reste plus beaucoup de temps. La fin de l'histoire, elle est aussi intéressante. À savoir que lorsqu'ils l'ont brûlé, donc, il y avait donc le podium où il y avait le bûcher, je ne sais pas comment exactement c'était. Et il y avait donc des bourreaux qui gardaient le bûcher qui avait été brûlé. Donc les cendres de Rabbi Avraham et le Gaon de Vilna, il dit qu'il fallait absolument récupérer les cendres pour les enterrer dans une tombe juive. Bien entendu, les curés, ils avaient dit qu'il fallait tout faire pour empêcher les juifs de récupérer les cendres. Alors comment ils ont fait? Alors le Gaon, il a appelé un juif qui s'appelait, alors j'ai noté son nom, Leizer Shishkes. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce juif-là? C'est un juif qui n'avait pas de barbe. Il était un berbe, il n'avait pas de barbe, pas de poil. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont déguisé donc en non-juif. Ils ont mis une grosse liasse d'argent dans sa poche et ils l'ont envoyé chercher les cendres. Donc il arrivait devant le bûcher. Là-bas, il y avait tous les bourreaux. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il avait une distribution de billets et tous, ils l'ont laissé faire ce qu'ils voulaient. Et donc il a pris une petite coupelle, comme petite urne. Et il a commencé avec son doigt à rentrer donc les cendres de ce saint homme. Ils les ont pris et ils les ont enterrés. Et le Gaon, il a été extrêmement reconnaissant envers Leizer Shishkes. Et il l'a béni. Il a béni de quoi? Il a béni de Arichut Yamim. C'est quoi Arichut Yamim en français? Longévité. Prolongée. Et on raconte, là-bas sur sa tombe, c'était marqué à Vilna, donc là-bas il est enterré à Vilna, qui a marqué sur sa tombe, que Leizer Shishkes, il est mort à quel âge? Il est mort à 112 ans. Il est mort à 112 ans grâce à la bénédiction du Gaon. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Guer Tzedek, Rabbi Avraham ben Avraham. Bon, Stam, Bala Moussar, il ramène cette histoire pour nous expliquer combien le commérage, combien le fait de raconter tout ce qu'on a vu, le fait de l'imsor, Moser, c'est quoi Moser en français? Non, pas l'imsor, un Moser, c'est quoi un Moser? Comment dire Moser en français? Non, un Moser, celui qui balance, une balance! D'accord? Un délateur! Combien le péché de délateur, il est grave, d'accord, d'avoir vendu une telle personne, qu'est-ce que ça a pu entraîner dans le monde?
Une balance.
D'accord, faut faire très attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dénonce, à ce qu'on fait. Rabbi Shalom, ça peut détruire des mondes. En tout cas, voilà, donc ça c'était l'histoire de Rabbi Avraham ben Avraham, Sruto Yagen Arlenu. Amen, Bezrat Hashem.